Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, John Ford, deuxième partie. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Nous avons vu donc la semaine dernière la carrière de John Ford, surtout l'aspect muet et aussi les caractéristiques particulières du personnage qui est quand même un peu dictatorial sur les tournages et qui défend la liberté d'expression. Et je m'étais arrêté sur l'année 1939 et 1940 où il tournait quatre films qui étaient tous des chefs-d'œuvre, notamment Les Raisins de la colère d'après le bouquin de Steinbeck, Sur la piste des Mohawks, La chevauchée fantastique et Young Mr. Lincoln. Donc, quatre films parfaits sur un an, ça paraît aujourd'hui extraordinaire, mais à l'époque, on pouvait encore le faire. Alors, aujourd'hui, la suite de la carrière, et cette suite de la carrière, on va essayer de la diviser entre John Ford et le western, et John Ford et d'autres films. Alors, d'abord, John Ford et le western. Pourquoi le western ? Parce que John Ford a écrit et réalisé de très nombreux westerns avec une forte qualité. Il faut préciser que les westerns sont parfois des films de série B dans les années 40-50 et n'aboutissent pas à une quasi-perfection comme dans les films de John Ford. Alors, le western, c'est un genre que l'on pourrait évoquer longuement. L'intérêt pour les États-Unis par rapport au western, c'est qu'ils recréent leur histoire. Ils n'ont pas notre passé, ils existent à partir du 18e siècle, disons, un peu avant. Donc, ils n'ont pas d'histoire, il faut qu'ils créent l'histoire. C'est leur chanson de geste à eux, on pourrait dire, que le western. Et il y a des histoires qui se passent pendant la guerre de sécession, avant, après, etc. Et l'autre élément qui est intéressant dans le western, c'est la dimension tragique. Il y a dans le western la tragédie classique. Deux personnes s'opposent, essaient de se poursuivre, et à la fin, l'une tue l'autre. Parfois, le frère tue le frère, l'ami tue l'ami. Donc, on a un fonctionnement de tragédie qui n'existe pas aujourd'hui dans beaucoup d'autres films. Et donc, cette dimension tragique fait le prix du western. Alors, qu'a tourné John Ford comme western ? Il y a des westerns sur la cavalerie. On parle parfois de la trilogie de la cavalerie, puisqu'il a tourné en 1948 le massacre de Fort Apache, en 1949, La charge héroïque, et en 1950, Rio Grande. Alors, l'intérêt de ces films, c'est qu'il ne va pas faire des films héroïques avec de la violence en permanence, mais il observe souvent la vie de garnison, avec ses difficultés, des rapports humains qui sont parfois délicats. Et déjà, il va présenter une originalité. L'originalité, c'est le massacre de Fort Apache. On sait que les Indiens ont été caricaturé au cinéma jusqu'aux années 60-70. Or, déjà en 1948, John Ford fait preuve d'originalité et va défendre les Indiens et critiquer celui qui a entraîné la mort de son régiment à cause de fautes graves. Il s'agit, derrière le nom qui est donné à Henry Fonda, du général Custer. Le général Custer a mis en place un groupe de cavalerie qui est destiné à courir après les Indiens, sauf qu'il va tomber dans un piège. Alors pendant très longtemps, on a dit Custer, c'est un héros qui a été massacré par les Indiens, qui sont méchants, etc. Et en réalité, Custer a voulu aller trop vite, il s'est fait prendre dans un piège, il a été, il faut le dire, nul. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, John Wayne, qui a critiqué en permanence son colonel, Henry Fonda, va le défendre ensuite et va créer en quelque sorte une légende. Sur le deuxième film, c'est-à-dire La charge héroïque, il faut préciser quel est le titre original. Parce que là aussi, c'est une particularité de la France que de mettre des titres stupides, alors que les titres sont différents et ont une connotation différente. On traduit La charge héroïque en français, alors qu'il y a très peu de charges. Le titre anglais, c'est, excusez-moi en anglais, « She wore a yellow ribbon ». Ça veut dire « Elle portait un ruban jaune » parce que, dans la cavalerie, une jeune femme qui porte un ruban jaune, c'est qu'elle est fiancée. Donc, une vie de garnison, Dans le troisième western 1950, Rio Grande, là aussi, c'est la cavalerie, John Wayne. Et la question qui s'est posée souvent pour les militaires, est-ce qu'on franchit la frontière pour aller ailleurs ? Ici, il s'agit d'aller au Mexique pour récupérer des enfants et des femmes qui ont été enlevés. Donc, la cavalerie, elle est présente dans le western de manière très très forte. Et ce qu'on peut dire ici à propos des Indiens, c'est que déjà John Ford va utiliser dès 1939 chez Voyage Fantastique des Indiens entre guillemets authentiques, hein, je dis ça par opposition à tous ces films jusqu'aux années 60 qui vont montrer des Indiens, c'est-à-dire des Blancs qui sont grimés, etc. etc. Donc le courage de John Ford, c'est de faire tourner réellement des Indiens, et il a aussi cette volonté de ne pas camoufler la vérité et de dire voilà quelles ont pu être les erreurs, quelles ont pu être les tragédies qui ont pu découler de ces erreurs de certains commandants. Alors il y a d'autres films sur la cavalerie, et notamment 1959, Les Cavaliers, qui est aussi un film qui est très enlevé, qui est tout à fait intéressant. Et là où John Ford est en avance, encore une fois, c'est qu'en 1960, il fait Le Sergent Noir. Le Sergent Noir, en 1960, c'est un soldat américain, cavalerie, donc, qui est noir, qui est joué par Woody Strode, qui est accusé d'avoir violé une femme blanche. Et le procès va aboutir à son innocence. Mais ce qui est très fort, c'est la lutte antiraciste de John Ford avant même qu'elle soit, je dirais, popularisée ou qu'elle soit devenue à la mode. Alors, je vais évoquer un autre western qui est fondamental sur le point des Indiens, mais on va lancer une musique qui est particulièrement symbolique des films de John Ford. C'est « My Darling Clementine », et j'y reviendrai ensuite sur « My Darling Clementine ».
Sons of guns, I'm here to say, have left me dead broke today. In gambling halls delaying, 10,000 cattle straying. In gambling halls delaying, 10,000 cattle straying. Oh, my darling, oh, my darling, Clementine.
Avant de passer à l'examen de ce film dont on vient d'entendre la musique, il faut évoquer le film symbole de John Ford par rapport aux Indiens. C'est un film de 1964, Les Cheyennes. Et Les Cheyennes est un film, là encore, original, parce qu'il montre comment les Indiens sont méprisés, écartés, rejetés dans des réserves par la cavalerie et derrière surtout les hommes politiques qui vont intervenir pour enfermer ces Indiens dans des réserves. Donc ce film Les Cheyennes va montrer aussi de véritables Indiens, pas toujours, certains rôles sont tenus par des Blancs, et surtout on voit combien des jeunes Indiens veulent protester contre le sort qui leur est réservé et comment la cavalerie va être obligée, un des officiers ne voulant pas aller jusque-là, à réprimer le mouvement. Alors il y a une scène dans Les Cheyennes qui est tout à fait typique. Il s'agit du moment où les Cheyennes attendent à côté de la voie ferrée pour voir quel sera leur sort. Et pendant des heures, ils restent debout sous le soleil avant petit à petit de s'effondrer pour certains parce qu'ils ne tiennent pas cette situation où le soleil va les écraser. Donc Les Cheyennes, c'est vraiment un film symbolique de Ford parce que beaucoup de films plus tard vont montrer comment les Indiens ont été traités. Un des plus célèbres, c'est Little Big Man avec Dustin Hoffman, qui montre comment un jeune blanc va aller des blancs aux Indiens, des Indiens aux blancs, en arrivant très difficilement à s'intégrer dans un groupe ou dans l'autre. Il y a aussi Soldat Bleu, où l'on montre le massacre des Indiens par la cavalerie. Donc tous ces westerns des années 60, 70, fin années 60, début années 70, seront très critiques. Et John Ford aura précédé cela en 1964, alors même que la tendance à l'époque n'était pas à la remise en cause de la politique américaine ou de l'attitude de la cavalerie. Donc, importance, c'est fort, encore une fois, de l'antiracisme, et que ce soit pour les Noirs ou pour les Indiens. Il va protéger les minorités, on pourrait dire aujourd'hui, et demander à ce qu'elles soient bien traitées. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la cavalerie. Encore une fois, je vais un petit peu vite parce qu'il y a tellement de films, on ne peut pas tous les citer. Et on vient aux autres westerns, c'est-à-dire les westerns qui ne touchent pas directement à la cavalerie. Et là, on a écouté la musique tout à l'heure, c'est La Poursuite Infernale, My Darling Clementine. Là encore, on a eu tout à l'heure la charge héroïque, elle portait un ruban jaune. Ici, c'est La Poursuite Infernale, alors qu'il y a 2 minutes de poursuite entre deux cavaliers. Et le titre original, c'est My Darling Clementine, qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus parlant. Et la musique, d'ailleurs, est très très célèbre. C'est celle que j'ai passée tout à l'heure. La Poursuite Infernale, c'est une première représentation au cinéma du règlement de compte à Hockey Corral. Parce que cette scène, le règlement de compte à Hockey Corral, a été présenté de très nombreuses fois au cinéma. Dans le cas de La Poursuite Infernale, en 1946, il y a une sorte de romantisme, c'est-à-dire qu'Henry Fonda est le bon, vraiment le très très bon, le shérif parfait qui incarne la force juste, et il sera aidé par Doc Holliday qui lui est un joueur, ancien dentiste, alcoolique, etc. Et les deux hommes vont nouer un lien, Wyatt Earp et Doc Holliday, jusqu'à aller ensemble à ce règlement de compte à Hockey Corral avec deux frères de Wyatt Earp. Et donc ce règlement de compte, ça dure quelques instants, parfois c'est étendu à plusieurs minutes, et on le retrouve dans de nombreux autres films, avec là aussi de manière intéressante une évolution des personnages, c'est-à-dire que le parfait, le bon Wyatt Earp de La Poursuite Infernale, Henry Fonda, et le sympathique, romantique Doc Holliday dans là aussi La Poursuite Infernale, c'est Victor Mature, va être remplacé dans Règlement de compte avec Coral, un film à Burt Lancaster et Kirk Douglas, par deux personnages qui sont beaucoup plus ambigus. Et même plus tard, dans 7 secondes en enfer, il y aura un renversement, c'est-à-dire que Wyatt Earp devient complètement antipathique, c'est la rigidité de la règle, alors que Doc Holliday a un caractère beaucoup plus humain et est beaucoup plus sympathique. Donc cette présentation du règlement de compte avec Coral, je passe sur d'autres, il y en a eu des dizaines, y compris un film avec Kevin Costner qui s'appelait Wyatt Earp, pour évoquer l'ensemble de la vie de ce shérif, Marshall, etc. Alors, il y a d'autres westerns qui sont particulièrement originaux. En 1948, c'est Le Fils du désert, là aussi, traduction, The Three Godfathers, c'est-à-dire les trois parrains. Et dans cette histoire forte, qui a toujours une dimension un petit peu religieuse, catholique, va décrire trois délinquants, des bandits de grand chemin, si je puis dire, et qui vont tomber sur un chariot où une femme va accoucher et mourir. Donc, ils se retrouvent les parrains de l'enfant et ils vont essayer de le maintenir en vie et d'arriver à une cité proche, là où un shérif les arrêtera, mais ils seront acquittés à cause de leur attitude par rapport à l'enfant. Donc, on pourrait presque dire que c'est un anti-western. Les trois parrains, bah vraiment, il n'y a pas beaucoup de violence. Hein, tout est axé sur cette marche avec l'enfant vers la ville. Alors, un film de 1956 s'appelle « La prisonnière du désert ». Alors là, on touche, je dirais, à la perfection. C'est-à-dire que « La prisonnière du désert » n'a pas eu beaucoup de succès au départ, mais ce film a été reconnu progressivement comme un des meilleurs films. Et certains, comme Scorsese, Tavernier, Coppola, etc., le classent parmi les films qui, dans toute l'histoire du cinéma, les ont marqués. Alors, il s'agit d'une situation que l'on retrouvera parfois ailleurs, c'est-à-dire l'enlèvement d'une jeune fille par des Indiens. Et on voit au début John Wayne qui rentre dans la maison où étaient ses parents, c'est-à-dire l'oncle et la tante, qui ont été tués. Et il va, pendant tout le film, courir après ces Indiens avec une autre personne, avec un autre cavalier. Et on voit un John Wayne qui n'est pas sympathique, qui est raciste, ce qui est totalement en opposition avec les autres rôles qu'il a pu avoir. Donc John Ford lui a mis un rôle qui était vraiment très particulier. Et il va, à un moment donné, on croit qu'il va tuer la jeune fille qu'il a cherchée pendant des années. Et puis finalement, il la ramène chez lui et il va en quelque sorte la protéger. Donc, question de la capture d'enfants blancs par des Indiens. On le retrouve aussi dans Les Deux Cavaliers. Alors, Les Deux Cavaliers, c'est James Stewart et Richard Widmark, des acteurs qui ont été présents aussi chez John Ford plusieurs fois, et qui partent pour récupérer des enfants. Et ils ramènent un enfant qui n'est reconnu par personne. C'est-à-dire que dans le village où il est, personne ne veut le reconnaître, en particulier pas ses réels parents. Et il y a une scène très ingénieuse ou très romantique ou originale où, à un moment donné, on ouvre une boîte à musique et l'enfant se précipite sur la boîte à musique en la prenant près de lui. Et là, on voit qui sont les parents et ceux qui l'ont rejeté jusqu'au bout. Donc, toujours des films qui sont originaux. Alors, on peut s'arrêter sur un film qui est là aussi, on peut dire, un chef-d'œuvre sur la légitimité du pouvoir, sur le rapport entre la force et le droit. Alors, cette question du rapport entre la force et le droit, c'est une question qui revient dans tous les westerns, ou quasiment tous les westerns. C'est-à-dire, on a un étranger qui va arriver dans un village et il se trouve face à une sorte de domination d'un dictateur, que ce soit un propriétaire, un shérif ou autre, et celui-ci va imposer son autorité injuste, la force brute. Et l'enjeu du western, c'est le fait que cet étranger qui va débarquer, il va oser aller contre le pouvoir du potentat local. Et donc, c'est une situation qu'on peut retrouver aussi dans le règlement de compte au Kekoural, que je citais tout à l'heure, dans Le Train s'il fera trois fois, avec Harry Cooper, et plus récemment dans L'Homme des Hautes Plaines et surtout Impitoyable de Clint Eastwood, qui a eu un Oscar en 1992. Donc cette idée de mise en place d'une nouvelle force qui sera une force juste à la place de la force injuste, c'est vraiment dans L'Homme qui tue Liberty Valance que c'est poussé à l'extrême. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un bandit, hein, qui est Liberty, joué par Lee Marvin. Et là aussi, c'est quand même amusant que John Ford baptise Liberty le bandit qui domine tout. Donc, lui, c'est la force injuste. Et dans le village, seul un personnage, John Wayne, là encore, représente la force, mais la force juste. Et on voit arriver James Stewart, qui est un avocat assez jeune, qui ne connaît rien à rien, qui veut instaurer le droit sur la base des codes dans la commune. Alors bien sûr, il ne peut pas, puisque Liberty Valance le rejette, et il va petit à petit se voir maltraité par Liberty Valance, jusqu'à ce que celui-ci lance un duel, et pendant le duel, James Stewart, de façon inattendue, tue Liberty Valance. Et à partir de là, ce qui est là aussi intéressant au niveau de la légitimité, il va devenir légitime et aimé par les habitants parce qu'il a tué Liberty Valance. Alors, est-ce qu'il avait le droit ou la capacité de tuer celui qui représentait, on pourrait dire, le gouvernement de fait, la force brute, alors que John Wayne présentait la force juste? En réalité, pendant tout le film, on croit que c'est James Stewart qui a tué Liberty, alors qu'il n'avait pas la capacité. Mais en fait, c'est John Wayne qui est masqué à une cinquantaine de mètres et qui prend une Winchester et qui tire en travers et qui tue Liberty Valance de la manière, j'allais dire, la plus honteuse qui soit. C'est-à-dire le western, c'est le duel final et c'est pas tuer quelqu'un en traître. Donc, ce qui est dans le film présent, c'est la force injuste Liberty Valance, la force juste John Wayne et la force nouvelle avec une légitimité, la légitimité juridique qui fonde la force avec James Stewart. Et donc, il est élu, James Stewart, à plusieurs reprises, et on veut l'élire au Sénat, et il hésite à y aller parce que tout repose sur le fait qu'il a tué un homme. Et John Wayne vient le voir, lui dit « Voilà, non, tu ne l'as pas tué, c'est moi qui l'ai tué. » Et à partir de là, il va se présenter aux élections, il va être élu, et à la fin, on le voit dans un train, vieilli, 20 années plus tard, et le poinçonneur de tickets dans le train, qui vient le voir, lui dit « Ah oui, mais vous êtes celui qui a tué Liberty Valance. » Et donc, toute sa légitimité est basée sur un meurtre. Et ça, c'est extrêmement fort dans la vision de l'Ouest. Et il y a une phrase qui est utilisée, qu'on a souvent citée des centaines de fois, quand le personnage joué par James Stewart revient au moment où John Wayne est décédé et voit un journaliste, il dit au journaliste ce qui s'est passé et comment Tom Doniphone, c'est le nom de John Wayne, a tué en traître Lee Marvin, et ce n'est pas lui qui l'a tué. Et une fois que James Stewart a raconté toute l'histoire, à ce moment-là, le journaliste déchire ses papiers et dit « Quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. » Alors, cette phrase a été souvent mal interprétée en disant « C'est ce que veut dire John Ford. » Non, en réalité, toute sa filmographie montre qu'il veut que la réalité soit présentée derrière la légende, ce qui apparaît dans de très nombreux westerns. Donc, vraiment, l'homme qui tue à Liberty Valance, c'est un chef-d'œuvre avec cette réflexion sur le droit, la force, le gouvernement, la légitimité. Alors, on va passer maintenant à quelques films qui sont autres que des westerns, c'est notre deuxième élément. Et avant de venir au premier film que je vais évoquer, on va écouter sa musique. C'est L'homme tranquille, The Quiet Man.
Thank you.
L'homme tranquille, The Quiet Man, c'est le film dont on vient d'écouter la musique en 1952. Il se passe en Irlande. Et il faut souligner que l'Irlande, c'est le pays d'origine de John Ford. Alors, je n'ai pas insisté sur cela la semaine dernière, parmi les caractéristiques, mais c'est vrai que John Ford est un Irlandais catholique qui va romantiser l'histoire. Dans L'Homme tranquille, il s'agit d'un boxeur, joué par John Wayne, encore une fois, qui revient dans son village d'origine, Innisfree, en Irlande. Et il y revient, on l'apprend au cours du film, parce qu'il a tué un autre boxeur sur le ring, il était boxeur, il a tué quelqu'un sur le ring. Donc il vient, en quelque sorte, prendre sa retraite là. Et il va tomber sur, comme dans le western, une brute épaisse, celui qui domine tout le monde, qui est joué par un acteur qui s'appelle Victor McGagan, qui a souvent joué chez John Ford, là aussi. Et il va épouser la sœur de Victor McGagan, c'est-à-dire Maureen O'Hara, sans que celui-ci lui donne une dot, ce qui était nécessaire à ce moment-là en Irlande. Donc, il va y avoir une bagarre homérique, elle est extrêmement célèbre, qui va durer une dizaine de minutes, entre Victor McGagan et John Wayne. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est surtout la poésie de ce film. On a des plans, comme un plan où Maureen O'Hara accompagne des moutons, et il y a un décor très vert, les arbres, les champs, etc., les moutons derrière, et elle est habillée avec une magnifique jupe rouge qui marque l'écran et qui donne une scène, un paysage magnifique. C'est vraiment extrêmement travaillé. Et L'Homme tranquille, c'est cette manière dont John Ford va voir l'Irlande. D'ailleurs, dans les films américains, il va souvent mettre des morceaux de musique irlandaise, notamment dans certains westerns. Donc, L'Homme tranquille, c'est l'Irlande romantisée, c'est une bagarre homérique, c'est un film qui est vraiment très original et très fort. Alors, on peut citer, parmi d'autres films, on a vu qu'il avait tourné 140 la semaine dernière, donc on peut citer un film qui est un petit peu original, qui sort de l'ordinaire pour John Ford, c'est Mogambo. Mogambo, c'est en 1953, et c'est le remake d'un film qui a été tourné 20 ans avant, avec Clark Gable. Et on retrouve Clark Gable dans le même rôle, c'est-à-dire un pisteur dans la savane africaine, et il va hésiter, si je puis dire, entre Ava Gardner et Grace Kelly. Ava Gardner, qui est au sommet de sa beauté, c'est une des actrices les plus fortes, à la fois dans son jeu et dans sa beauté, dans les années 40-50. Et Grace Kelly est à ses débuts, elle n'est pas encore la future princesse. Elle a travaillé avec beaucoup de films dans le cinéma. Et quand elle va arrêter, elle aura définitivement arrêté, même si cela a été parfois dur. J'allais dire, ne soyons pas mauvaise langue, mais c'est l'inverse de la fameuse Meghan, qui, pour tout titre de gloire, a commencé dans une émission où elle passait en mannequin pour montrer des numéros et des boîtes, une émission qui a aussi existé en France. Donc, je referme la parenthèse. Et on a des images de l'Afrique qui sont très rares dans le cinéma de Ford. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un film qui était particulièrement original. Alors, il y a des films aussi qui ont une dimension politique. Qu'est-ce que je veux dire par la politique ? On peut évoquer deux films. Un de 1958 qui s'appelle « La dernière fanfare » à propos d'un maire qui va perdre une élection. Et antérieurement, en 1953, il y avait « Le soleil brillait pour tout le monde » avec l'élection d'un juge, puisque vous savez qu'aux États-Unis, les juges sont élus, et il est élu à une voix. Donc, il montre des personnages vieillissants qui hésitent, qui se représentent, qui luttent, qui finalement décident de ne plus lutter. Et cela encore, c'est quand même une particularité. À l'époque, on n'évoquait pas trop souvent cette question de la politique locale telle qu'elle apparaissait dans ces différents films. Alors, autre film qui s'appelle « La taverne de l'Irlandais 1963 », mais avant de dire quelques mots, nous allons écouter la musique. Thank you. La taverne de l'Irlandais, film qui est ici sous les tropiques, donc dans une île. John Wayne toujours au personnage principal. Et à chaque anniversaire, on voit débarquer Lee Marvin, qui là encore comme Liberty Valance apparaît dans un film de John Ford. Et il se livre à une bagarre homérique. C'est un élément qui apparaît souvent dans les films américains et parfois dans les films de John Ford, avec toujours une dimension comique. Donc la volonté, c'est de montrer de manière un petit peu originale les tropiques, même s'il y a un certain nombre de clichés dans ce film-là. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une remise en cause de beaucoup d'éléments et le cliché demeure. Alors, dernier film de John Wayne, 1966, intéressant pour le sujet, Frontière chinoise, titre original Seven Women, donc sept femmes. On se trouve à la limite de la Mongolie et de la Chine dans les années 30, et il s'agit de la vie d'une mission, non, une mission religieuse. Et ces femmes sont là pour aider les personnes qui habitent là, les soutenir et les guérir. Donc, personnage central, sept femmes, 1966. Et on pourrait dire, là aussi, finalement, John Wayne se convertit, il va défendre les femmes. Mais non, John Ford a toujours défendu les femmes. Il a toujours présenté personnages de femmes forts, notamment dans Les Raisins de la Colère, mais aussi dans d'autres films, des femmes souvent qui sont des mères de famille, assez fortes, etc., qui sont totalement opposées au modèle hollywoodien préfabriqué de la femme. Donc, John Ford, toujours original, John Ford, un véritable maître du cinéma. Je vous rappelle la phrase de Orson Welles que je vous ai dite la semaine dernière, mais qui est très parlante. Quand on lui demandait « Qui aimez-vous comme metteur en scène au pluriel ?», il disait « J'aime les vieux maîtres, John Ford, John Ford et John Ford. » C'était Cinéma, Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Charlie Hudave. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.